de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le président Jokowi lance Indovac, un vaccin contre la COVID-19 fabriqué dans le pays. Le ministre Erlangga déclare que le potentiel d'investissement et de commerce entre l'Indonésie et le Canada est très grand. BIFW accueille les acteurs de l'industrie créative de la mode au niveau international. La présidente de la Chambre des représentants espère que la coopération entre l'Indonésie et le Kenya continuera de s'améliorer. La réunion du FMCBG renforce l'engagement envers la crédibilité du G20, affirme Sri Mulyani. Les investisseurs dans les énergies propres s'intéressent au potentiel en Indonésie, a affirmé l'ambassadeur Rosan. Java Oriental et la Suède explorent la coopération dans le développement des transports publics. Voici le journal complet. Le président Jokowi a lancé jeudi un vaccin COVID-19 fabriqué dans le pays, appelé Indovac, produit par Biopharma Société Anonyme, au bureau central de Biopharma Société Anonyme à Bandung, Java Occidental. Le président Jokowi assure que la production de vaccins est produite de l'amont vers l'aval en Indonésie. Selon lui, le vaccin est le travail acharné des générations humaines en Indonésie. Le président a expliqué que le vaccin Indovac prendra 1,5 ans et actuellement, Biopharma peut produire le vaccin Indovac avec une capacité de 20 millions de doses. Quant à l'année 2023, le vaccin Indovac peut être produit jusqu'à 40 millions de doses. Pour cette raison, le président Jokowi a demandé au ministre des Entreprises publiques, Erick Thohir, et au ministre de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, qui était également présent sur le site de lancement, de continuer à encourager Biopharma à produire des vaccins. Le ministre indonésien de la coordination des affaires économiques, Erlangga Hartarto, a déclaré que le potentiel de coopération entre l'Indonésie et le Canada en termes d'investissement et de commerce est très grand, mais qu'il n'a pas été pleinement réalisé. C'est ce qu'a affirmé le ministre Erlangga Hartarto lorsqu'il a rencontré la ministre canadienne du commerce international, de la promotion des exportations, des petites entreprises et du développement économique, Marie Ang, à Jakarta, mercredi le 12 octobre. Le ministre Erlangga a déclaré que le Canada a un marché ouvert. Il est donc possible que l'Indonésie entre sur le marché américain via le Canada. Pendant ce temps, la ministre Marie a déclaré que l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et le Canada était une priorité absolue pour le gouvernement canadien. La structure de l'accord de partenariat permettra aux entreprises canadiennes d'investir, d'exporter et de faire des affaires en Indonésie plus facilement. Actuellement, les négociations sur l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et le Canada durent depuis 2 cycles et devraient être achevées dans peu de temps. Marie espère que l'Indonésie pourra devenir le point d'entrée du Canada dans l'ASEAN en raison du rôle stratégique de l'Indonésie dans la région de l'Asie du Sud-Est. Le directeur général de Nusa Dua à Bali, Igusti Ngurah Ardika, a déclaré que la Semaine internationale de la mode de Bali, BIFW 2022, qui s'est déroulée du 13 au 15 octobre 2022, accueille les acteurs commerciaux de l'industrie créative et les micro, petites et moyennes entreprises pour développer et améliorer la qualité du travail des acteurs économiques en valorisant la sagesse locale de la communauté afin d'être en mesure de rivaliser au niveau international. Il a ajouté que la Semaine internationale de la mode de Bali 2022, à laquelle participaient 33 créateurs de mode nationaux et internationaux, a lieu au Musée Pacifica dans la région de Nusa Dua, Bali, qui est géré par l'entreprise d'État Pembangunan Wisata Indonesia Society Anonyme ou Tourism Development Corporation. La présidente de la Chambre des représentants ou DPR RI, Puan Maharani, espère que la coopération entre l'Indonésie et le Kenya pourra continuer à s'améliorer car les deux pays ont de bonnes relations étroites depuis l'ère du règne du premier président de la République d'Indonésie, Sukarno. Cela a été transmis par Puan lorsqu'elle a rencontré le président de la République du Kenya, William Samoei Ruto, au bâtiment d'État du Kenya à Nairobi récemment. Selon Puan, dans sa déclaration à Jakarta jeudi à l'heure actuelle, l'Indonésie va continuer à renforcer ses relations avec les pays d'Afrique, dont le Kenya. Puan a déclaré que les relations étroites de l'Indonésie avec les pays d'Afrique, y compris le Kenya, existaient depuis la conférence afro-asiatique KAA, dirigée par le premier président indonésien Sukarno. Selon elle, la KAA, à cette époque, avait encouragé l'indépendance des pays d'Asie et d'Afrique pour se libérer du colonialisme et les principes de la KAA restaient pertinents pour le développement mondial. Il a également été expliqué que les relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Kenya existent depuis 1979 et ont été encore renforcées par l'ouverture de l'ambassade de la République d'Indonésie à Nairobi en 1982 et l'ambassade de la République du Kenya en Indonésie qui a été inaugurée en mars 2022. La ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati a déclaré que la 4e réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales FMCBG avait convenu de renforcer l'engagement envers la crédibilité du G20 en tant qu'institution multilatérale. Cette réunion est très critique pour maintenir la crédibilité du G20 et renforcer les engagements qui ont été pris précédemment. Cela a été dit par Sri Mulyani lors de la présentation des résultats de la 4e réunion du FMCBG à Washington DC aux États-Unis jeudi heure locale. Elle a déclaré qu'il y avait plusieurs accords lors de cette réunion, à savoir l'importance de renforcer les politiques de manière coordonnée et harmonieuse pour l'économie mondiale et la prospérité couvrant la résilience du système financier dans l'architecture financière internationale. L'ambassadeur d'Indonésie aux États-Unis, Rosan Peruslani, en marge de la réunion FMIBM à Washington DC, mercredi heure locale, a déclaré que les acteurs du secteur de l'énergie propre aux États-Unis s'intéressaient au potentiel d'investissement en Indonésie. On dit que les acteurs d'industrie aux États-Unis s'intéressent aux énergies propres telles que la géothermie et la capture du carbone. Il a déclaré que l'investissement dans l'énergie respectueuse de l'environnement est actuellement une cible car l'Asie du Sud-Est est un grand marché car elle possède des ressources géothermiques et un potentiel de capture de carbone qui atteint 40% du monde. En outre, il a affirmé que l'autre investissement potentiel des États-Unis est l'investissement dans les batteries de voitures électriques. Étant donné que l'Indonésie est l'un des pays disposant des plus grandes réserves de nickel au monde. Rosan a assuré que l'ambassade d'Indonésie continuerait à mener une diplomatie économique pour inviter les investissements en Indonésie en particulier ceux qui sont conformes au potentiel de ces ressources et aux conditions naturelles du pays. Le gouvernement provincial des Alpes-Orientales et le gouvernement suédois envisagent de coopérer dans le développement des transports publics électriques, en particulier pour les bus. Le gouvernement suédois et le secteur privé du pays vont investir dans l'est de Java. C'est ce qu'a déclaré la gouverneure de Java Oriental, Khofifa Indar Parawansa, après avoir reçu jeudi la visite de l'ambassade de Suède en Indonésie, Marina Brook, au bâtiment d'État de Granadi, dans la ville de Surabaya. Au cours de leur réunion, l'ambassadrice Marina Brook a exprimé son intérêt à collaborer dans le domaine des transports publics à Surabaya et à l'est de Java. L'un d'eux est prêt à aider à construire des transports en commun, à savoir des bus et d'autres transports en commun électriques. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite sont tendues ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, la relation traditionnelle entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, bien connue et qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a commencé et tiré. Le 5 octobre, l'Arabie Saoudite, la Russie et d'autres membres de l'OPEP ont convenu de réduire la production de pétrole de 2 millions de barils par jour, soit l'équivalent de 2% de la production mondiale actuelle de pétrole entrera en vigueur à partir de novembre. La décision de l'Arabie Saoudite avec les pays producteurs de pétrole, l'OPEP+, y compris la Russie, de réduire la production de pétrole est considéré comme un obstacle aux efforts de Washington pour punir Moscou pour ses actions en Ukraine. Quant à la politique intérieure des États-Unis, la décision a été annoncée avant les élections de mi-mandat de novembre. Pendant ce temps, les démocrates tentent de maintenir leur contrôle sur la Chambre des représentants et le Sénat américain. La décision de l'OPEP plus a provoqué la colère des États-Unis. Dans un entretien accordé à CNN mardi dernier, 11 novembre, le président Joe Biden a déclaré qu'il exercerait des représailles contre l'Arabie saoudite. Les États-Unis accusent l'Arabie saoudite de suivre la volonté de la Russie contre Washington et les plans occidentaux de réduction des revenus de Moscou. Au Congrès des États-Unis, les voix appelant à la rupture de toutes les relations de coopération avec l'Arabie saoudite se multiplient également. Le président de la commission sénatoriale des relations étrangères, Bob Menendez, a déclaré qu'il rejetterait les ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Il a également rejeté toute forme de coopération avec Riyad. Pendant ce temps, le sénateur démocrate Dick Durbin a qualifié l'Arabie saoudite de traître. Durbin a également demandé à un Congrès américain d'adopter immédiatement la loi anti-cartel sur la production et les exportations de pétrole, NOPEC, qui autorise au ministère américain de la Justice à poursuivre les membres de l'OPEP+ devant les tribunaux américains pour concurrence commerciale déloyale. Pas seulement cela, plusieurs membres de la Chambre des représentants des États-Unis du camp démocrate ont également proposé un projet de loi qui forcerait le retrait de toutes les troupes et armes américaines d'Arabie saoudite. En réponse à la colère des États-Unis, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, a déclaré à la télévision saoudienne Al Arabiya que la décision de l'OPEP+ était fondée sur des considérations économiques et avait été prise à l'unanimité par ses membres. L'OPEP, dans son rapport mensuel publié mercredi dernier, a déclaré que l'économie mondiale était entrée dans une période d'incertitude et de défis croissants. Pendant ce temps, le Fonds monétaire international, FMI, avait revu la veille à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2023 et mis en garde contre un risque accru de récession mondiale. Espérons que la rupture de relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite n'aggravera pas les conditions économiques mondiales qui ont commencé à devenir difficiles ces derniers temps. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانغ جان شوي بي تاي كو جو يي فانغ شي سين سين غوانغ جوانغ بين دو فاي يان د تشوان غو وو د كو جو باو هو ني يي د كو جو باو هو وو
ايفيتي لا ديفوسيون ديل كوروناڤيروس كورتار لا كادينا د ترانسميسيون usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken.
meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 14 octobre. Le 14 octobre 1921, la naissance du général Hugeng, policier honnête et courageux. Hugeng Imam Santoso, ou mieux connu sous le nom de général Hugeng, est l'un des meilleurs fils de la nation indonésienne. Non seulement respecté parmi la police indonésienne, le cinquième chef de la police nationale indonésienne est également aimé du peuple indonésien. Tout au long de sa vie, l'homme qui est né à Pekalongan le 14 octobre 1921 était connu comme un policier honnête, ferme, simple et courageux. Avant de maintenir son intégrité en tant que chef de la police nationale, le général Hugeng est prêt à vivre une vie simple. Sous sa direction, les criminels n'osaient pas bouger. Le 14 octobre 1952 est la guerre de Corée. Les troupes de l'ONU et de la Corée du Sud ont lancé l'opération Showdown contre le bastion chinois dans le triangle de fer le 14 octobre 1952. Les troupes de l'ONU et de la Corée du Sud ont lancé une attaque contre le bastion chinois. L'attaque pendant la guerre de Corée a ensuite conduit à la bataille de la colline du Triangle qui a duré jusqu'au 25 novembre de la même année. Le 14 octobre 1973 est une rébellion des étudiants de Thammasat en Thaïlande. Pas moins de 100 000 étudiants de Thammasat en Thaïlande ont organisé une rébellion le 14 octobre 1973. L'action a été menée pour protester et renverser le gouvernement militaire de Thanom Kittikachun. L'incident a également fait 77 morts et 857 blessés par l'armée royale thaïlandaise. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Ini hidupku, bukan hidupmu. Tak perlu ku mengikuti semua langkahmu. Ini mimpiku, bukan mimpimu. Ku dengar suara hati memanggil.
Jangan mahu jajakan langkahmu.
Janganlah berani percaya, engkau pasti akan kesana.
Jangan mahu katakan mimpimu.
Kau pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata.
We love you, we love you, we love you.
berubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ini caraku, bukan caramu. Cibiran kata hanyalah angin berlalu. Aku beranikan diri dengar suara hati.
Jangan mengaku jadikan kamu.
Janganlah berhenti percaya, engkau pasti akan kesana. Pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Aku lihat cahaya di sana. Kini aku melangkah ke sana. Tak peduli mereka.
La Voix de l'Indonésie organise de nouveau le quiz international VOI 2022. 8 gagnants recevront des prix étrayants de chaque service linguistique. Préparez-vous, vous pourriez être l'un des gagnants du quiz international 2022 de La Voix de l'Indonésie. Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers amis de l'antenne, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie. Et pour le titre, le président Jokowi propose un investissement dans l'asphalte au sommet quotidien des investisseurs. Le président Jokowi Dodo, Jokowi a offert des opportunités d'investissement dans l'asphalte en région de Buton, dans Sulawesi du Sud-Est, tout en donnant un briefing lors de l'ouverture du sommet quotidien des investisseurs 2022 à Jakarta mardi. Comme cité sur la page Antara 11 octobre, le président Jokowi a admis que d'après les résultats d'une visite de travail à Buton il y a quelque temps, il y avait des données selon lesquelles il y avait un dépôt de 662 millions de tonnes d'asphalte, mais il n'a pas été absorbé car l'asphalte emporté était considéré comme moins cher. Par conséquent, le président Jokowi a annoncé qu'il ne donnerait que le temps de 2 ans pour arrêter les importations d'asphalte étant donné les grandes réserves d'asphalte à Buton. En outre, le président Jokowi estime que l'investissement dans l'asphalte à Buton a un potentiel évident car au moins il est clair qu'il existe un marché dans le pays qui jusqu'à présent a principalement utilisé de l'asphalte importé. Même si vous pouvez construire une usine de traitement d'asphalte avec une grande capacité de production, le reste de la réalisation du marché intérieur peut être exporté vers des pays étrangers. Selon lui, sur la base des dernières informations reçues, l'Indonésie a besoin de 5 millions de tonnes par an, ce qui signifie que l'Indonésie a encore 120 ans pour gérer ce qu'on appelle l'asphalte bouton. L'investissement dans le traitement de l'asphalte à bouton est également conforme à l'industrie en aval qui est intensifiée par le président Joko Widodo. À la même occasion, le président Jokowi a une fois de plus illustré le saut de valeur ajoutée obtenu par l'aval de l'industrie du nickel. Le président a expliqué qu'actuellement, l'Indonésie exporte encore le nickel sous forme de matière première. La valeur n'est que d'environ 15 millions de roupies par an. Après être entré dans l'industrialisation, l'aval devient 20,9 milliards de dollars américains. C'est déjà à 360 billions de roupies. De 15 billions de roupies à 360 billions de roupies. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Cinta lewat pandangmu kamu satu.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir, c'est le temps pour l'émission des magazines culturels. Vous êtes avec moi Audrey et je vais vous présenter la danse Lumense du nord de Tokotua, Sulawesi du sud-est. Chers auditeurs, cette édition, nous vous présentons la danse Lumense. La danse Lumense est une danse originaire de Tokotua, Kabaina, Bombana, Sulawesi du sud-est. Le mot Lumense lui-même vient de la langue locale, à savoir lume qui signifie mouche et mense qui signifie haute. Ainsi, lumense signifie voler haute. Cette danse traditionnelle est également jouée pour accueillir les invités lors de fêtes folkloriques. La danse lumense est dansée par un groupe de 12 femmes, 6 personnes jouant le rôle d'homme et 6 autres jouant le rôle de femme. Les danseurs portent des vêtements traditionnels Kabaina. Les danseuses qui jouent le rôle des femmes portent des jupes rouges et des hottes noires. Cette chemise s'appelle un tainkombo, tandis que les danseurs qui jouent le rôle des hommes portent un tainkombo associé à un foulard rouge. Ces danseurs masculins portent des korobi ou des sarongs, des machettes en bois qui sont portées sur la taille gauche. Chers amis, la danse Lumense commence par un mouvement de va et vient. Ensuite, les danseurs changent de place pour former la configuration de la lettre Z, puis changent en S. Les danseurs jouent un mouvement dynamique appelé Momani ou Ibing. Cette danse atteint son apogée lorsque les danseurs exécutent un mouvement Momani, puis tranchent une machette sur la bannière jusqu'à ce que les bannières tombent ensemble au sol. Cette danse est fermée lorsque les danseurs forment une configuration semi-circulaire en entrelaçant leurs mains puis en les déplaçant de haut en bas et leurs jambes d'avant en arrière. Même cette danse est accompagnée de tambours et de grands gongs ou de rires et de petits gongs ou ndengu ndengu. Dans le passé, la danse Lumense était exécutée dans le cadre du rituel Peolia, qui est un rituel d'adoration des esprits appelé Kowo Nuano, ou dirigeant et propriétaire de la terre. Ce rituel est effectué en servant différents types d'aliments. Le rituel Peolia est organisé pour que le Kowo Nuano puisse conjurer toutes sortes de catastrophes. La clôture des rituels est l'abattage du bananier. Cela signifie qu'après la chute du bananier, les catastrophes peuvent être évitées. Cependant, avec le temps, la fonction de la danse Lumense a commencé à changer. Désormais, la danse est autorisée pour accueillir les invités d'honneur. Bon, chers auditeurs, c'est tout, le magazine culturel.
Di malam ini sunyi sepi, raga terbawa hati yang akan nyata sedang ada di sisi dekapanku. Luapan hayalku semakin menjauh, tersadar diriku tak bisa lama-lama menanti dirimu untuk datang kembali bersama di sini. Dan tak bisa aku lama-lama untuk menahan rindu, kita akan bertemu dan kembali ku memelukmu lagi. Sedang ada di sisi dekapanku. Luapan hayalku semakin menjauh, tersadar diriku tak bisa.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'Indonésie en couleur, intitulé « Trois nouveaux musées ouverts en Indonésie ». Vous êtes avec moi Audrey. Serge Ritard, le ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République d'Indonésie a lancé trois nouveaux musées, à savoir le musée indonésien du Batik à Jakarta, le musée Semedo à Tegal et le musée Songtrus à Pacitan. Le programme de lancement a coïncidé avec la journée des musées indonésiens célébrée chaque 12 octobre. Le musée indonésien du Batik le musée Semedo et le musée Saint-Trousse. Sont trois des 11 musées construits de 2010 à 2022. La construction de ces trois musées est une forme des efforts du gouvernement pour protéger, utiliser et préserver la culture par le biais du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Le musée indonésien du Batik est situé à Taman Mini Indonesia Indah, TMI, à l'est de Jakarta. Ce musée a été créé à la suite de l'inscription du Batik indonésien sur la liste représentative de l'UNESCO du patrimoine culturel immatériel de l'humanité le 2 octobre 2009. De plus, comme lieu d'héritage du savoir ainsi que de la culture, Batik qui est l'une des identités de la nation indonésienne. Le musée indonésien du Batik présente des informations sur l'histoire du Batik en Indonésie et diverses collections de tissus Batik des différentes régions d'Indonésie, en plus de présenter des informations sur les techniques de fabrication du Batik, l'utilisation du Batik traditionnel et son développement aux personnalités qui joue un rôle dans le monde du Batik. De plus, le musée Semedo est situé sur les pentes de la chaîne de montagnes Serayu, précisément à la fin du village de Semedo, à Kedung Banteng, Tegal. La découverte d'anciens restes humains, de fossiles de flore et de faune et de divers artefacts en pierre et en eau dans la zone de conservation culturelle de Semedo encourage la construction d'installations de préservation du patrimoine culturel, d'installations éducatives et de loisirs pour la communauté sous la forme de musées. Le bâtiment du musée Semedo est équipé de points de repère sous la forme d'un monument en ivoire, d'une statue d'un ancien éléphant de l'espèce Stegodon et d'une représentation de l'évolution humaine précoce en tant qu'icône de la zone de conservation culturelle de Semedo. Pendant ce temps, le musée Saint-Trousse est situé à Weru Hamlet, Warang, Punung, Pacitan, Java, Oriental. La découverte de fossiles humains préhistoriques, de fossiles de flore et de faune et de divers outils en pierre dans la zone du site préhistorique de Gunung Sewu, principalement trouvé dans des grottes d'habitation préhistorique, est la principale raison de l'importance d'établir un musée dans cette zone. Bon chargé tard, c'est tout, l'Indonésie en couleur.
Tertulis begitu indah sepanjang rekah cerita kau taklukkan rindu yang meradang di hayalanku. Dan biar selalu tentang bahagia adalah ketika di palung hatimu terukir ribuan alasan untuk mencintai diriku dan mengarungi dirimu. Ternyata tak begitu indah mencintai. Begitu indah.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson d'Aceh intitulée « Prang Sabi ». Cette chanson est une œuvre littéraire d'Aceh sous la forme d'une saga, sous forme de poème pour encourager la guerre, écrite par des savants d'Aceh. Bon, voici Orangutan Squad va chanter une chanson intitulée « Prang Sabi ». Bonne écoute.
Kita lupa, darah jua. Lagu panglima dan jelelo. Semalam abang hai datang kuikor bakal nyawa. Terlihat anak tak luar legenda si tua. Tanpa beko giliran kita untuk membreka pokok bangga. Kirin buka pakai sajato tapi pikian. Kita bisa bersama maju walau dari pinggian. Idol mandia ala lama menanti di artis sugo. Tato di jalan rapi tato kebekan budaya kita.
Waktu izimu pedang ulang salah guno. Pemebue budaya dan jaso pahlawan yang dilukoko. Kita budaya timur walau pi dari selatan. Generasi muda nalot ange beto hasjaran. Nenek boyang memang baki nega. Kino ikuti zaman do. Ulang lupo tradisi yang munggo diperjuang pro. Ikon masuk perang rumun pada radio bumi kejurun. Hingga padu masuk sejak dalot perlu temen.
Syair telah dilafal tertulis dalam hikayat. Semangat untuk berdiah demi keadilan. Hakikat seruan menuju surga dan pahala yang berlipat. Sekarang saatnya generasi muda yang berbuat. Kita pengganti para leluhur yang telah gugur. Memang benar darah Aceh tidak takut bertempur. Menerus warisi ilmu indah dalam bertutur. Yakin akan terwujud sujud akibu ku bersyukur.
Assalamualaikum, tungku medua. Katru nelangkah ya Allah neobakamu.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.